affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Aujourd'hui encore, le couple franco-allemand est considéré comme le cœur battant de l'Europe. Et lorsqu'on évoque cette notion, les premières images qui nous viennent à l'esprit sont celles de De Gaulle et Adenauer, ou encore d'Helmut Kohl et François Mitterrand devant l'ossuaire de Douaumont. Ces images de réconciliation montrent que dans ce couple, décidément, l'entente ne va pas de soi. Mais n'aurait-il pas pu en être autrement ? La France et l'Allemagne auraient-elles pu évoluer de concert, voire former d'emblée un ensemble unifié ? Ce rêve est bien sûr celui de l'Empire carolingien. C'est à ce retour historique que nous invite l'ouvrage « Allemagne et France au cœur du Moyen-Âge », récemment publié aux éditions Passé Composé. Cet ouvrage collectif est en lui-même un symbole, car il était codirigé par un Français et un Allemand. En l'espèce, par Dominique Barthélémy, professeur à Sorbonne Université et membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, conjointement avec Rolf Gross, professeur à l'Université d'Heidelberg. Il consacre donc un rapprochement des historiographies françaises et allemandes, tout en nous invitant à redécouvrir le Moyen-Âge et à considérer que celui-ci n'est pas tant, comme on le croit trop souvent, une parenthèse, mais une matrice féconde et une clé d'interprétation. Pour vous présenter cet ouvrage, nous avons le plaisir de recevoir Dominique Barthélémy, mais aussi Michel Zinc, de l'Académie française et secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, car cette dernière académie a été partie prenante de ce beau projet éditorial.
Bonjour.
Bonjour.
Ma première question sera pour Monsieur Zinc. Monsieur, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter la genèse de cet ouvrage singulier ?
Eh bien, cet ouvrage est né en fait d'une initiative du duc d'Arenberg, et l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres a pris la responsabilité de le mettre en œuvre, parce que elle avait, d'abord parce que c'était un honneur que le duc se tourne vers elle, mais aussi parce qu'elle avait déjà l'expérience d'un travail fructueux avec lui. Il y a quelques années, un document extrêmement précieux et original détenu dans les archives de la famille d'Arenberg, du duc d'Arenberg, dit le rouleau d'Arenberg, c'est un rouleau médiéval, enfin je n'entre pas dans les détails, ce document a été édité par la Société des bibliophiles François dont le duc fait partie, mais il a été édité par notre collègue Jacques Paviot sous la surveillance de notre confrère Philippe Contamine, et le duc a bien voulu être très satisfait du travail qui avait été réalisé. Et de notre côté, c'est-à-dire du côté de l'Académie, nous avions été plus qu'intéressés, fascinés, par ces archives d'Arenberg qui répondent si bien aux préoccupations de cette académie, au moins pour la partie d'entre elles qui s'occupe du Moyen-Âge, puisque l'Académie des Inscriptions couvre l'Antiquité, l'Orientalisme et le Moyen-Âge. Et le duc d'Arenberg, j'en raconte l'histoire, nous a invité un jour, notre confrère Yves-Marie Berset et moi-même, à venir visiter ses archives, et en particulier pour nous montrer deux documents ottoniens, l'un vrai, l'autre faux, mais c'est un vrai faux ou un faux vrai, enfin Dominique Barthélémy nous expliquera ça tout à l'heure, qu'il voulait mettre en valeur et qu'il voulait publier, non seulement pour le plaisir de faire connaître ses archives, mais parce qu'il est animé par une idée constante dont ce livre, le livre que nous présentons aujourd'hui, est en partie la réalisation. La maison d'Arenberg est ou était une maison souveraine dont les terres, les possessions s'étendaient aussi bien en Allemagne, dans l'Allemagne actuelle, que dans la Belgique et la Hollande actuelle, et c'était une maison à la fois germanophone et francophone. Et donc, il a vécu à la fois les tensions de l'Europe, les rivalités et les conflits franco-allemands, enfin, il, sa maison, et ils les ont vécus, ils en ont souffert, parce que cette maison a été démembrée, on les a accusés d'être de tous les côtés. Depuis, le duc travaille beaucoup, à côté des autres activités de sa fondation, à... Enfin, le rapprochement franco-allemand, comme vous l'avez très bien dit, est fait, mais à la compréhension des relations entre la France et l'Allemagne, et en remontant jusqu'aux origines, c'est-à-dire jusqu'au Moyen-Âge, parce que sur ce problème précis, c'est au Moyen-Âge que tout commence, et au moment où s'installe aussi cette maison d'Arenberg, qui est extrêmement ancienne. Et alors, il nous a montré ces documents qui eux-mêmes pouvaient donner qu'à une publication courte, et à ce moment-là, je lui ai proposé de mettre en œuvre un livre plus vaste. Je me suis adressé à mon confrère le plus compétent et le plus actif, qui est Dominique Barthélémy. Lui-même a recruté, si je puis dire, Rolf Gross, qui à la fois était à Paris, est allemand et spécialiste de ces questions et de ces époques, et eux-mêmes ont recruté des collaborateurs, et je dois dire, je le dis d'autant plus librement que je n'y suis pour rien, j'ai seulement lancé l'idée de ce livre, et a été achevé dans un temps record pour un ouvrage collectif faisant appel à tant de collaborateurs, et c'est vraiment une réussite parce qu'il a une unité à la fois de perspective et de réalisation qui fait qu'on ne le lit pas comme des membres des siectas venant de personnalités diverses, mais vraiment comme un livre cohérent.
Alors plongeons-nous dans ce Moyen-Âge, immergeons-nous dans cette époque féconde. En l'occurrence, à l'école, on nous avait appris que la jeunesse de la France et de l'Allemagne provenait du partage de l'empire de Charlemagne entre ses trois petits-fils. Est-ce bien cela, M. Barthélémy, ou est-ce plus compliqué ?
Effectivement, on a longtemps considéré que les deux nations françaises et allemandes étaient déjà constituées du jour où le partage de Verdun a été consommé ou confirmé quelques années plus tard. Et pendant des années, notamment au XIXe siècle, on a couramment écrit dans les manuels, même dans des livres un petit peu plus ambitieux, l'histoire du cœur du Moyen-Âge, des Xe et XIe siècles, en pensant en termes de nations contemporaines. La moindre campagne de chevaliers ou de seigneurs du royaume capétien en direction de la Lorraine, ou la moindre campagne d'un parti de seigneurs et de chevaliers allemands ou lorrains dans un sens ou dans l'autre, était considéré déjà comme une invasion, comme un prélude à la guerre nationale. Donc effectivement, si l'empereur Othon le Grand intervenait en France, c'était déjà une intrusion allemande. Si l'empereur Henri V menaçait Reims en 1724, c'était une première menace d'invasion allemande, etc., etc. Alors, en reconsidérant les choses, toute une école historique qui a été notamment illustrée par Karl Ferdinand Werner et Karl Richard Brühl, qui ont été des associés étrangers de l'Académie des inscriptions, donc c'est une grande génération d'historiens qui ont dominé l'historiographie de la pré-Seconde Guerre mondiale. Karl Ferdinand Werner, Karl Richard Brühl ont beaucoup insisté, entre autres historiens, sur le fait que les nationalités n'étaient pas encore véritablement constitué, que peut-être il y avait plus de différences entre l'ouest et l'est de l'Allemagne, entre le nord et le sud de la France actuelle, qu'entre le nord de la France et l'ouest de l'Allemagne, sans parler de la Lotharingie qui est entre les deux, et que même tous les gestes politiques des rois de France ou de Germanie, des rois de Germanie devenant empereurs, devaient être interprétés autrement que comme des actes de pur nationalisme, comme on l'aurait fait pour des époques plus modernes.
Et c'est-à-dire que du coup, l'histoire à cette époque-là n'est absolument pas nationale, mais essentiellement dynastique ?
Alors, elle est dynastique, effectivement, en sachant que derrière les rois et les seigneurs, il y a tout de même à chaque fois des groupes aristocratiques, des factions, qu'il commence quand même à y avoir dans les différentes régions, des élites qui représentent des petites sociétés bien identifiées, les uns comme lorrain ou lotharingien, d'autres comme swab, saxon, français, mais ça veut dire le centre du bassin parisien, car il y aurait aussi bourguignon, flamand, etc.
Précisément, dans le livre, il y a une relation des serments de Strasbourg en 842. N'est-ce pas là, monsieur Zinc, un bon exemple de la façon dont cette relation peut s'envisager selon différents angles?
Les serments de Strasbourg ont une importance politique considérable, mais réduite par le fait que les guerres ont recommencé et que la paix qu'ils consacraient a été fragile. En revanche, ils sont extrêmement importants puisqu'ils donnent le premier document écrit en français, enfin qui veut être écrit dans une langue qui est la langue parlée et non pas le latin, et que les princes et les soldats, ou au moins les chefs, Dominique Barthélémy sait cela mieux que moi, ont prêté serment, les uns dans sa langue, les autres, les princes, chacun dans la langue de l'autre. Mais ce qui est remarquable, c'est moins que ces serments aient été prêtés sous cette forme. Il y avait une raison, et cette raison était que tous ne comprenaient pas le latin, et que du côté roman, si je puis dire, c'est la preuve que ceux qui n'étaient pas éduqués ne comprenaient plus le latin officiel, pour le français qui était en train de se dégager du latin. Pour l'allemand, c'était différent, parce que c'est une langue germanique qui préexistait. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que quelqu'un ait pris la peine de noter ces textes, et de le noter dans ces langues qui étaient à peine écrites pour l'allemand et qui ne l'étaient pas du tout pour le français. Il fallait inventer une graphie, il fallait tout inventer. Et c'est un geste d'homme politique, c'est le geste de Nithard, qui était à la fois le cousin de Charles le Chauve et son premier ministre, chef d'état-major, et qui a écrit une chronique dans laquelle il rapporte les événements et où il a pris la peine d'insérer ces textes, ce qui est un geste absolument prodigieux. Quelques années, ou avant, mais presque à la même époque, pour une chronique parlant d'une chanson chantée par le peuple dans la rue, donc en langue vulgaire, l'a retraduit en latin, mais un si mauvais latin qu'on peut reconstituer le français derrière. Mais tout de même, il l'a traduite, il lui est pas venu à l'idée qu'il pouvait la reproduire comme ça. Et cette idée, Nithard l'a eue.
Autre chose de frappant, nous avons là d'un côté donc Louis le Germanique, né en Aquitaine, et de l'autre côté, du côté français pourrait-on dire, Charles le Chauve, qui lui est né au palais impérial de Francfort. C'est dire la complexité de la configuration, puisque à travers les langues, on sent naître des ensembles culturels, mais en même temps, à leur tête, nous trouvons des souverains qui auraient comme interverti leur rôle, ou plutôt leur trône.
Oui, d'une certaine façon, mais enfin, là aussi, Dominique Barthélémy saura mieux que moi, mais il est probable que Charlemagne lui-même, et jusqu'à deux générations après, circulait, enfin que ses princes circulaient un peu entre les langues de leurs états, et qu'ils étaient parfaitement capables de se débrouiller. Et ce sentiment encore, dans la chanson de Roland, à la fin du XIe siècle, on dit « Charles revient en France, il vient à Aix, le meilleur siège de France ». Aix, c'est Aix-la-Chapelle. Pour l'auteur du XIe siècle, la France, comme le disait Dominique il y a un instant, c'est le centre de la France, c'est l'île de France. Ah. Tout de même, Aix est le meilleur siège de France. Comme il a dit aussi, toutes ces frontières étaient floues, et comme le sentiment, ce que nous appelons le sentiment national, n'existait pas, et que les liens étaient d'une autre nature, les rapports linguistiques étaient également différents.
Il faut aussi souligner que la rencontre se déroule sur le Rhin, soit sur le fleuve qui nous apparaît aujourd'hui comme la frontière naturelle entre la France et l'Allemagne. Était-il perçu comme cela à l'époque, Monsieur Zinck?
Enfin, je ne sais pas là encore, probablement pas, parce que si on feuillette le livre, on le voit très bien, il y a des cartes excellentes, les frontières entre les domaines, les principautés, les royaumes, l'empire, ne correspondaient pas du tout aux frontières de la France et de l'Allemagne telles qu'elles ont existé ensuite. À l'époque romantique où l'auteur allemand devait préciser que le Rhin est le fleuve allemand mais qu'il n'est pas la frontière de l'Allemagne contre les ambitions de la France à occuper la rive gauche du Rhin.
Il y a une autre rencontre qui permet peut-être de saisir de façon plus palpable la façon dont se passe la diplomatie à cette époque. Je veux parler des rencontres au sommet de Mouzon et Ivoix. Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Parce que le tableau est assez saisissant.
Dominique, levez la main.
Oui, alors, oui. Oui, effectivement, c'est bien, après que Michel Zinck ait éclairé cette phase des serments de Strasbourg et toute la postérité de culture commune entre les divers héritiers de l'Empire carolingien. Pendant un premier temps, si vous voulez, et notamment jusqu'à l'avènement du Capet en 987, ça fait vraiment partie du programme politique de beaucoup de princes des deux côtés, de réunifier l'Empire de Charlemagne, ou à défaut de le réunifier vraiment, de mettre la main sur la zone centrale, qu'on appelle désormais la Lotharingie, qu'il y a notre Lorraine, et puis en gros une grande partie de la Belgique actuelle et de la rive gauche du Rhin, donc de mettre la main sur la zone médiane et d'avoir une certaine préséance. Et les descendants de Charlemagne s'accrochent un petit peu à ça, même s'ils sont très affaiblis à la fin du Xe siècle. L'un d'entre eux se paye encore le luxe de faire un raid sur le palais d'Aix-la-Chapelle en 978 et de l'occuper pendant un moment. Cependant, à partir du moment où Hugues Capet est devenu roi à l'ouest, donc dans le pays qui va finir par s'appeler seul la France, à partir du moment où Hugues Capet est devenu roi, ça l'intéresse beaucoup moins de prétendre à la prédominance. De toute façon, il est réaliste, il ne peut pas l'avoir. On a même l'impression que lui et ses descendants se désintéressent de la Lotharingie, donc la frontière va être pendant longtemps sur la Meuse et sur l'Escaut, hein, et pas sur le Rhin. Et d'autre part, les souverains allemands perdent un petit peu de leur force dès le début 11e, même s'ils ont encore beaucoup d'ambition vers l'Italie et surtout vers l'Europe de l'Est et du Nord, mais en tout cas, ils ne regardent plus vers l'Ouest. Et donc, à ce moment-là, les deux royaumes, celui dominé par les Allemands et le royaume occidental capétien, n'ont plus vraiment de rivalité politique. Ils ont un peu tendance même à se tourner le dos entre eux. À partir du 14 octobre 1066, les descendants du Capet sont galvanisés par la concurrence, par l'aiguillon que représente le royaume anglais qui appartient au duc de Normandie, puis comte d'Anjou. Donc, les destinées des deux pays, leurs préoccupations ne se rencontrent plus tellement. Et les deux, la future Allemagne, la future France, qui commencent quand même à ressembler un petit peu plus aux nations modernes, on s'achemine quand même un tout petit peu vers les identités ethniques et nationales, les deux pays n'ont pas de véritable pomme de discorde entre eux. Ils ont l'un et l'autre des ennemis privilégiés qui sont d'un côté l'Angleterre, de l'autre des pays ou des principautés d'Europe de l'Est et d'Italie.
Alors vous avez utilisé pour caractériser ces deux entités le terme de royaume pour l'une et pour l'autre. Dans l'imaginaire collectif, on a tendance à penser que la royauté, c'est en France et que l'Empire, c'est en Allemagne, pour simplifier. Vous dites les deux royaumes. Pouvez-vous nous expliquer cela, l'un ou l'autre?
Alors, je continue. Oui, parce que en réalité, ce qu'on appelle empire, c'est un titre qui vient récompenser la possession, la détention par un souverain qui a d'abord été roi en Allemagne, qui a été sacré en Allemagne, la détention par lui de plusieurs royaumes. À l'Allemagne, il ajoute l'Italie et l'ancien royaume de Bourgogne qui va jusqu'à la Méditerranée, qui comprend la Provence et les Alpes actuelles. Et donc, en fait, c'est plutôt un super roi, un roi cumulant, qu'un empereur au sens romain ou même byzantin du terme. L'essence de son pouvoir, c'est avant tout, dans les différentes régions où son influence se fait sentir, un pouvoir royal. Il est vrai, néanmoins, que dans la mesure où il intervient à Rome, dans la mesure où il a des querelles de suprématie avec le pape, il est quand même un petit peu plus qu'un roi, d'où l'hésitation du médiéviste à dire roi ou empereur, hésitation des sources aussi d'ailleurs, hein. Hésitation aussi d'ailleurs à parler d'empire allemand, qui est une expression qui n'apparaît vraiment qu'au XVe siècle, même si les empereurs sont toujours des Allemands.
En effet, au-delà du prestige qui s'attache au titre, l'organisation, mais surtout les soucis des deux souverains, semblent similaires. Ainsi, dans le chapitre consacré au concordat de Worms, s'agissant de la querelle des investitures, il est frappant que dans l'Empire comme dans le Royaume de France, le même type de difficulté dans les relations avec le clergé se fasse jour. Monsieur Barthélemy, pouvez-vous nous éclairer sur ce point ?
Absolument, de toute façon, c'est une difficulté qui se présente pour toutes les monarchies de l'Occident chrétien, notamment aussi pour l'Angleterre, et il y a ces deux chapitres, l'un sur le concordat de Worms, l'autre sur le schisme contre Alexandre III, à l'époque de Frédéric Barberousse. Pendant le XIIe siècle, ce sont en fait les trois royautés, donc l'Empire qui est à la royauté allemande, puis la royauté française, et la royauté anglaise, qui sont confrontés au même problème, et il y a un jeu politique assez serré entre les trois monarchies et avec la papauté. Donc ça, c'est un peu le lot commun des rois de l'Occident chrétien. Le problème se posera dans des chronologies différentes et des modalités quand même assez semblables pour les royaumes espagnols, pour le Danemark et pour plusieurs autres.
Vous voulez ajouter quelque chose ?
Un détail, j'étais frappé par ce que disait Dominique Barthélemy sur le fait, enfin, quelque chose qu'on sait, que l'Empire n'est devenu l'Empire allemand qu'au XVe siècle. Et jusque-là, il me semble qu'on considère que, effectivement, les Allemands sont majoritaires, hein, mais ça pourrait être autrement. Et je pense au début d'un roman français en vers du début du XIIIe siècle, le récit commence par « En l'Empire, où les Allemands ont été maint jour et maint an, bien des années, si comme le dit le comte, seigneur, il y eut jadis un empereur. » Et l'auteur est de l'Empire, mais il est francophone. Et donc, il considère que c'est une sorte d'habitude, mais c'est pas une nécessité. On sait, les Allemands étaient souvent maîtres de l'Empire, voilà.
Oui, c'est quelque chose de purement conjoncturel.
Oui, voilà.
Toutefois, pour cerner cette notion d'empire, les ambitions qu'elle manifeste à défaut de toujours les réaliser, je voudrais que vous évoquiez l'un ou l'autre les enluminures ottoniennes. D'abord parce qu'elles sont superbes, mais aussi parce qu'elles décrivent un mystérieux hommage des nations à Othon III.
Dominique Barthélemy.
C'est moi, vous ne voulez pas intervenir ?
Non, parce que aucun d'entre nous n'est historien de l'art sur la forme des miniatures, il faudrait avoir Charlotte, et sur le fond, sur l'interprétation de la miniature, vous êtes mieux placé que moi.
Je ne sais pas, en tout cas, effectivement, vous avez raison, ce sont deux très beaux chapitres et dont les illustrations nous font voir de magnifiques miniatures, hein, des éditions passées composées qui sont dirigées avec beaucoup d'énergie par Nicolas Grappaillat, qui s'est très bien occupé de notre livre, qui nous a beaucoup soutenus. Les éditions ont réussi, je crois, une très belle performance technique avec toutes les illustration du volume et en particulier ces enluminures. Alors effectivement, ce sont des enluminures qui sont de Lorraine ou avec Metz ou bien de l'Allemagne du Sud avec Reichenau et c'est évidemment un élément, on dirait, de la communication ou de la symbolique du pouvoir ottonien. Et effectivement, elle montre bien que à l'époque d'Othon III, jusqu'à Othon III, donc, qui est l'empereur de l'an 1000, mais qui meurt très jeune, qui ne dure que quelques années, avec des ambitions à la suprématie qui sont très marquées, il y a un hommage des nations et qui représente à la fois une idéalisation et un noyau de réalité. Il y a une idéalisation parce qu'on imagine que toutes les nations d'Europe vont lui rendre hommage, ce que la France capétienne n'a jamais fait, mais un élément de réalité parce qu'en effet, les Ottoniens jusqu'à Othon III se faisaient rendre une sorte d'hommage, en tout cas une allégeance très solennelle, par les rois d'Europe de l'Est et du Nord qui venaient de se convertir au christianisme, et ça représente en effet une posture que les Ottoniens avaient assez volontiers. Mais juste après Othon III, son cousin Henri II, en devenant roi, puis empereur après quelques années, il a attendu plus de 10 ans avant de se faire couronner empereur, Henri II a commencé à mener une politique un petit peu plus centrée sur l'Allemagne, un petit peu moins soucieuse d'afficher un programme de suprématie universelle. Et ce programme n'a reparu ensuite quand même que par intermittence. Donc ça illustre, ça documente un moment un petit peu exceptionnel de l'histoire de l'Empire.
L'autre élément qui étonne dans ces enluminures, c'est qu'Othon III n'est pas seulement représenté comme un lointain héritier de Constantin ou de Théodose, mais carrément comme une figure du Christ sur Terre. Est-ce que l'on ne met pas là le doigt sur une différence avec le roi de France, ou du moins avec la façon dont le roi de France se percevait lui-même ?
Hugues Capet n'aurait pas eu l'idée de se faire représenter de cette façon, mais dans la suite du Moyen-Âge, il y a eu tout un développement de la propagande ou de l'imaginaire royal français qui est allé un petit peu dans le même sens. Et il est vrai, en effet, qu'il y a pendant tout le Moyen-Âge, en tout cas à partir de l'époque carolingienne, ce qu'on appelle une sorte de christologie royale, une tendance à représenter les rois à l'image du Christ, qui est une tendance quand même qui a forcément aussi des limites, parce que il faut bien expliquer quand même que les souverains ne sont que des hommes, que les souverains ne sont que des prêtres. Donc je pense que Michel Zinc vous en parlerait mieux que moi, il faut aussi savoir marquer les petites réserves que suscitait cette représentation qui n'est pas toujours d'ailleurs si facile que ça à déchiffrer pour nous, historiens, qui appartenons à des époques éloignées, où évidemment on n'aurait pas l'idée de faire une christologie de nos souverains, quels qu'ils soient.
Vous avez évoqué le métier d'historien, c'est justement l'un des charmes de l'ouvrage. Même pour un béotien comme moi, il permet en effet de faire comprendre la façon dont se déploie le travail de l'historien, car la plupart des chapitres partent de documents d'époque, qui sont reproduits d'ailleurs, qu'ils soient picturaux ou scripturaux. Si bien que le raisonnement des auteurs se déploie à partir de cette source comme une véritable enquête historique. Monsieur Zinc, pouvez-vous nous expliquer de la façon dont chacun a procédé ?
Oui, c'est justement comme le livre est parti de ces deux documents ottoniens, donc du Xe siècle, du duc d'Arenberg, il a été conçu comme pas une démonstration, parce que c'est un livre qui a ses hésitations, mais comme un éclaircissement des relations de l'Allemagne et de la France au cœur du Moyen-Âge, à partir de cas concrets, de tels personnages, de telles situations, de documents concrets, des documents d'archives, des illustrations. Et d'ailleurs, j'aurais dû le dire en commençant, je remercie Dominique Barthélémy de l'avoir fait, la réussite du livre tient aussi à sa réussite matérielle. Et c'est vrai que ces jeunes éditions Passé Composé et Nicolas Grapaillat ont fait un travail vraiment remarquable. La présentation du livre est excellente et les illustrations sont très, à la fois très belles, très lisibles, ce qui est essentiel pour leur utilisation par les historiens, par n'importe qui, par le public intéressé par ces questions. Elles ajoutent vraiment à l'analyse et à la compréhension.
Il faut en effet préciser que tous les documents présentés ne sont pas austères, loin de là. Certains sont même parfois franchement drôles ou émouvants. À ce titre, je voudrais, Monsieur Zinc, que vous évoquiez pour nos auditeurs, d'une part, le poème appelé « La séquence de Lally » et aussi le « Ludwigslied », qui, comme son nom l'indique, est une chanson.
Oui, la séquence de Sainte-Eulalie est très importante pour le français parce que c'est le premier poème conservé en français. Le « Ludwigslied », qui est un panégyrique, une déploration funèbre sur la mort de Louis III, n'est pas le premier document en allemand, comme je disais, l'allemand préexistait, mais c'est un document très ancien, et on réunit les deux textes, parce qu'ils sont effectivement contenus dans le même manuscrit, un manuscrit qui est conservé à Valenciennes, et qui vient d'une abbaye d'Empire. Et donc c'est un manuscrit trilingue, essentiellement latin, mais qui contient, ajouté dans le cas de Ludwigslied, en bas d'une page, ce poème allemand et ce poème français. Le manuscrit est probablement d'à peu près 882, c'est la date de la mort de Louis III, et je ne sais plus quels indices font penser que le poème allemand a été recopié tout de suite, presque tout de suite, dans le manuscrit. Ça donne une date pour le poème français. Et on voit bien la différence d'évolution à l'époque entre les deux langues. Le français va rattraper son retard et pendant deux siècles au moins être une sorte de modèle littéraire, l'ensemble français et Languedoc pour l'Europe, au XIIe et XIIIe siècle. Mais au départ, naturellement, l'allemand a de l'avance. Le Hildebrandslied allemand est bien plus ancien que les plus anciens textes français. Le Beowulf saxon aussi. Et on voit la différence, les différentes orientations de la poésie, mais c'est très mal dit. Le Ludwigslied est un panégyrique et une déploration, comme on en trouve beaucoup en latin à la même époque. Le poème sur Sainte-Eulalie est une sorte de raconte, de façon très très simple, la vie et le martyre de la jeune sainte. Or, dans le manuscrit, il y a aussi une séquence de Sainte-Eulalie en latin, que suit la séquence française. Une séquence, c'est un poème liturgique. On chantait Alléluia dans la liturgie, la jubilation de l'Alléluia, sur ces mélodies que nous appelons aujourd'hui grégoriennes, donc avec toutes sortes de mélismes, et à la fin, on chantait à la suite du séquence, sequentia, ce qui vient ensuite de sequor, on chantait un petit texte ou un petit poème sur le même air, sur l'air des mélismes. Et la séquence latine est faite comme ça. C'est un panégyrique purement rhétorique, on n'apprend rien sur Sainte-Eulalie. Mais le poème français, qui joue le même rôle, c'est pourquoi on l'appelle séquence. Au début, on disait cantilène, qui est le mot employé à l'époque, cantilena, pour désigner les poèmes populaires. Mais ce n'est pas un poème populaire, on ne peut même pas distinguer à l'époque populaire ou pas. Simplement, il s'adresse au peuple. Il faut lui faire comprendre pourquoi il est là et pourquoi il vient. On l'oblige à venir à l'office de Sainte-Eulalie, à ne pas travailler ce jour-là et à perdre de l'argent. Et alors, le poème le dit « Bona pulsella fut l'alia, bel avre corps, bel zur anima, le valdre ventre l'idée inimi, la voldre feuille, le dao, le servir, elle n'ascolte mi, les mauls conseillers, etc. L'Eulalie était une jeune fille, elle avait le corbeau, l'âme plus belle encore, les ennemis de Dieu veulent la vaincre, ils veulent la faire servir le diable, etc. » Et puis elle n'écoute pas les mauvais conseillers, elle finit par être martyrisée. Tout cela est d'une simplicité absolu, naturellement, mais cela montre que le premier effort littéraire, si ça mérite ce mot, premier effort poétique en français, est un effort, nous sommes parénétique ou un effort pastoral, comme diraient nos seigneurs les évêques. Il s'agit de convertir, il s'agit de convaincre, et c'est cet effort qui fait que une langue nouvelle, comme le français, est devenue très tôt une langue littéraire, beaucoup plus tôt que ça ne se passe dans d'autres civilisations, dans les mêmes circonstances. Excusez-moi, j'ai été trop long sur cette question, mais c'est important pour vous, c'est amusant.
Parlons aussi du Ludwigslied, qui, pour le coup, a un contenu nettement plus politique, voire géopolitique. Monsieur Barthélémy, voulez-vous bien nous le décrypter, s'il vous plaît ?
Alors, effectivement, Michel Zinc a merveilleusement récité, chanté la séquence de Sainte-Eulalie. Dans le chapitre qui lui est consacré, ainsi qu'au Ludwigslied, les lecteurs verront que, comme vous venez de le suggérer, ce Louis-là, Louis III, ou en tout cas les gens qui ont écrit le Ludwigslied, sont français. Mais l'auteur du chapitre, Jens Schneider, a trouvé, je crois, l'explication de cette rédaction en allemand, c'est qu'on destine cet éloge de Louis III à un public allemand, et il y a derrière ce poème un projet alors, de réunification franque, c'est-à-dire en fait franco-allemande, au bénéfice de Louis III, qui est le petit-fils de Charles le Chauve et qui véritablement n'est pas plus français qu'allemand, il est simplement franc et carolingien, et donc il aurait vocation, Michel Zinc l'a expliqué tout à l'heure aussi, il doit lui-même maîtriser les deux langues à la fois, très, très probablement encore sa génération, donc il a vocation à faire carrière à l'échelle de l'Empire carolingien tout entier.
C'est donc un libelle en faveur d'un roi français, mais adressé à ceux qu'il souhaite, en quelque sorte, rassembler sous son égide. D'accord.
Alors, puisque nous venons d'évoquer un objet littéraire qui joue à saut de frontière, quels sont les autres vecteurs qui unifient peu ou prou ces ensembles, autres vecteurs culturels qui unifient ces ensembles? Car on a vu les querelles dynastiques, on a vu des ensembles linguistiques naître, on a vu aussi quand même des différences institutionnelles s'ébaucher. Il n'en reste pas moins que tous ces gens sont en relation plus ou moins étroite et que de grands mouvements balayent le continent tout entier.
Le grand unificateur, c'est le latin. Et c'est l'Église, c'est la religion. C'est que on voit très bien, Dominique l'a dit, que l'enjeu, c'est l'évangélisation, c'est la christianisation des royaumes du Nord et de l'Est, et que une fois que ces gens sont baptisés, eh bien, ils sont inclus dans l'ensemble et ils sont unis à la fois par le christianisme et par la langue universelle qu'est le latin. Hein. Le latin est la langue de l'Église, le latin est la langue de la vie intellectuelle, le latin est la langue de l'administration, tout se fait en latin. Ce qui est anormal, c'est qu'on ait pris la peine d'écrire des textes dans les langues vernaculaires, mais non pas en latin. Et la connaissance même du latin était étendu au moins une connaissance orale. Éginard nous dit que Charlemagne parlait couramment le latin et qu'il comprenait le grec. Je ne sais pas s'il savait très bien le grec, il savait à peine, il ne savait pas écrire même en latin, Charlemagne à peu près. Mais si tout le monde, s'il avait été très rare pour un roi de parler couramment le latin, il n'aura pas éprouvé le besoin d'ajouter le grec. S'il ajoute le grec, c'est que c'est ça qui montre que c'est quelqu'un de vraiment remarquable. Parler très bien le latin, il éprouve le besoin de le dire, mais enfin bon, ça va de soi. C'est là, on peut être, d'ailleurs, c'est le contraire malheureusement de ce qui se fait actuellement, on peut être médiéviste sans savoir le français, ou sans savoir l'allemand, ou sans savoir beaucoup de choses. On ne peut pas être médiéviste sans savoir le latin. Sur quoi les jeunes générations d'étudiants devraient réfléchir.
Nous avons donc découvert l'émergence de littérature, d'une part de langue germanique et d'autre part de langue romane. Il y a toutefois à l'évidence des passages entre ces univers, et j'en veux pour preuve le chapitre que vous avez consacré au Perceval de Chrétien de Troyes, et ensuite à sa réception en langue germanique à travers la nouvelle version qu'en donne Wolfram von Eschenbach. Monsieur Zinck.
À partir du moment où les langues, les littératures vernaculaires existent, ce continuum culturel à travers l'Europe qui est assuré par le latin s'étend en quelque sorte à ces langues vulgaires. Quand la poésie lyrique apparaît en languedoc avec les troubadours, les Italiens, les Catalans écrivent en languedoc, puis après ils adaptent dans leur langue. Les Français imitent en français, les Allemands imitent en allemand avec les Minnesingers. Quand je disais il y a un instant que pendant deux siècles au moins, c'est la France qui donne le « la » de la mode littéraire, si je puis dire, eh bien, je pensais justement à des cas comme celui des romans arthuriens. Ces romans bretons ou arthuriens dont l'origine est, qui reprennent des légendes celtiques, sont connus d'abord par des romans français et puis adaptés dans toutes les langues. On va parler de Chrétien de Troyes, mais il y a eu un roi de Norvège au début du XIIIe siècle qui a fait traduire systématiquement en norrois toute la littérature française, à telle enseigne que la première version intégrale de Tristan et Iseult que nous connaissons, c'est la saga norroise. Nous n'avons que des bouts des poèmes français qu'elle traduit. Dans le cas de Chrétien de Troyes, c'est un cas particulier parce que Chrétien de Troyes, donc, qui écrit qui compose entre, en gros, 1170 et 1185, quelque chose comme ça, est apparemment un champenois au service de Marie de Champagne et qui a la lance le roman français en écrivant des romans qui se passent à la cour du roi Arthur, mais dont le roi Arthur n'est pas le héros des romans qui racontent le destin individuel d'un jeune chevalier. Et ce modèle de roman va avoir un succès immense dans l'Europe entière et pendant des siècles. Le dernier roman de Chrétien de Troyes, qui n'est pas écrit pour la comtesse Marie de Champagne, la petite fille d'Aliénor d'Aquitaine, mais pour la fille, vais-je dire, mais pour Philippe d'Alsace. Et Philippe d'Alsace est un prince très pieux. Le Comte du Graal est à la fois un roman d'aventure et d'amour et un roman mystérieux avec le Graal dont il est le premier à parler. C'est la première fois qu'on entend parler du Graal dans la littérature. Très énigmatique, il reste inachevé. On lui écrit en France toutes sortes de suites, etc. Mais un auteur allemand, Wolfram von Eschenbach, écrit de son côté un Perceval, Parzival ou Parzival, qui s'inspire du roman de Chrétien de Troyes, qui dit que Chrétien de Troyes ne connaissait pas toute l'histoire et qu'il suit un nommé Quiot der Provençal, Quiot le Provençal, dont on ne sait pas du tout qui il est. Et il écrit le roman qui est le plus connu aujourd'hui par c'est de lui que Wagner s'est inspiré, et qui est beaucoup plus touffu, beaucoup plus foisonnant que celui de Chrétien de Troyes. Mais avec au centre la même question, le jeune naïf, ou la question qu'il faudrait poser, le jeune naïf qui veut être chevalier, Perceval, arrive dans un château merveilleux, voit et reçu par, alors selon les versions, un infirme, par qui est le vieux roi pêcheur, ou qui dans d'autres cas est le fils du roi pêcheur, enfin bref. Il est reçu par un homme, somptueusement, par un infirme qui ne peut pas marcher, et il voit passer pendant tout le repas un cortège étrange avec la lance qui saigne et avec un Graal, c'est un nom commun, plutôt de Languedoc effectivement lui-même, qui désignait une auge à cochon ou plutôt un plat à poisson. Et le vieux roi le regarde, Perceval ne pose pas la question. Et tout le monde sait que ça entraîne une malédiction et que Perceval ensuite passe sa vie, passe très longtemps à essayer de retrouver le château du Graal pour poser la question. Et le Graal est probablement d'origine celtique. Dès Chrétien III, il est un ciboire qui contient une hostie dont se nourrit la nourriture exclusive du père du roi pêcheur. Dans le roman de Wolfram, le côté religieux est encore bien plus accentué. Et là, puis la question de la rencontre des religions, il y a un chevalier sarrasin, et son vertu, etc. Et la question que doit poser Perceval au château du Graal, et qu'il ne pose pas, c'est de demander au roi pêcheur, au roi souffrant, au roi infirme, quel est ton tourment ? Et il ne la pose pas. Alors que dans Chrétien III, il va se demander seulement à qui fait-on le service du Graal ? Mais ce qui revenait un peu au même, puisque ce Graal contient une hostie. Et je dis souvent que la personne qui a le mieux compris cette légende du Graal, avec ces bibliothèques entières qui ont été écrites sur elle et sur les romans qui en sont tirés, c'est Simone Veil, la philosophe Simone Veil, qui en 1940, au moment où elle gagne la zone sud, et elle est hébergée par le poète Joé Bousquet à Carcassonne, le poète blessé, et ensuite elle lui écrit une lettre de château pour le remercier, et elle lui dit « Vous m'avez prêté attention ». Et rien n'est plus difficile, rien n'est plus beau que l'attention. C'est un des grands thèmes de Simone Veil. C'est même la base de toute sa philosophie, une philosophie de l'attention. J'ai toujours cru que ce qu'il y a de plus beau, c'est de savoir, et de plus difficile, c'est de savoir que les autres existent. Et il faut toute une vie pour l'apprendre. Il faut passer par des échecs, par des difficultés, par des souffrances pour être enfin capable de dire « Quel est ton tourment ?» C'est l'histoire du Graal. Il faut toutes ces souffrances pour Perceval pour savoir dire « Quel est ton tourment ?» Et bien là, c'est vraiment la collaboration dans le bon sens du terme franco-allemande. Hein, c'est que cette histoire de Chrétien de Troyes, le roman de Chrétien de Troyes est admirable. Ce sont deux romans, tous les deux, dans des styles différents, admirables. Eh bien, Chrétien de Troyes a écrit ce chef-d'œuvre absolu et Wolfram a su lui faire dire ce qu'il veut dire en réalité. Mais c'est Wolfram qui le dit. La question, c'est quel est ton tourment ? C'est vraiment les sommets. C'est pas beau parce que c'est du 12e ou du début du 13e siècle. C'est vraiment des sommets de la littérature.
Est-ce que finalement, cette question de l'attention à l'autre, mais à un autre reconnu comme autre, un autre à qui l'on puisse dire en sincérité « Quel est ton tourment ?» n'est-ce pas là finalement la clé d'une relation franco-allemande renouvelée, le nœud autour duquel pourrait tourner ces relations bien davantage qu'une illusoire fusion après des siècles d'histoire séparées et tourmentées.
Exactement. C'est ça, accepter l'autre comme il est. Et justement, c'est pour cela, bon, je retombe après votre envolée qui est magnifique et qui pourrait faire une fin, c'est que je parlais tout à l'heure de ces romans de francophones d'Empire. Eh bien, ces textes montrent ces rencontres et ils les montrent sur le ton de la plaisanterie. Dans le roman dont je parlais, il y a un tournoi, les chevaliers allemands arrivent et ensuite, dans le combat, dans le tournoi, son héros se bat avec les chevaliers allemands. Mais en même temps, il est francophone et il y a cette sorte de grande, même pas de réconciliation, puisque c'est un jeu finalement, c'est une partie. C'est qu'il a cette tendresse pour les francophones et puis cet esprit de parti dans le jeu avec les germanophones, et finalement tout le monde s'entend bien. Et dans une autre histoire de tournoi qui est plus tardive du XIVe siècle, tournoi de Chauvency, qui est un poème qui raconte un vrai tournoi. Et alors ça, je le dis, c'est un plaidoyer pro domo mea, parce que je suis alsacien, au moins à moitié, dans ce tournoi, qui aident sont des gens aussi d'empire, avec des germanophones, des francophones, quelques Français, et il y a un vieux chevalier alsacien. Et ce vieux chevalier alsacien est ridicule parce que ce tournoi se passe entre francophones et lui a un accent allemand prononcé. Et on se moque de son allemand. Mais c'est un très bon et très gentil chevalier. Avec son fils, il est attendrissant. Et ce petit trait qui prête à sourire fait en même temps qu'on a particulièrement de sympathie pour lui. Enfin, ce sont des détails à côté du conte du Graal et de ce qu'il enseigne. Mais comme être attentif aux différences de l'autre, c'est ce qu'on nous répète partout et en même temps ce qu'on nous enseigne jamais, plus on nous dit d'accepter les différences, plus le monde est intolérant, c'est bon aussi de montrer que dans les détails, ça peut se faire.
Et aussi dans la truculence.
Voilà, exactement.
Et c'est l'un des charmes du livre d'ailleurs, c'est qu'on découvre cette langue du Moyen-Âge avec des textes absolument magnifiques, que ce soit des libelles politiques, des traités diplomatiques ou déjà des pamphlets. Je pense notamment à ce texte qui dresse un portrait implacable qui déjà...
Du duc Gislebert de Lorraine.
Oui, Gislebert.
Voilà, c'est un moine qui dresse son portrait. Ces quelques lignes valent en elles-mêmes l'achat du livre. Est-ce que l'un ou l'autre voulait ajouter quelque chose en guise de conclusion et pour impacter le futur lecteur ?
Alors, si je peux, effectivement, je crois que l'essentiel a été dit, admirablement dit, par Michel Zinc et par vous, en écho. En effet, le plus important, ce sera si ce livre et d'autres, la lecture de Simone Veil et des deux romanciers médiévaux, peut aider à réfléchir, à progresser sur ce thème de la différence et de la reconnaissance de l'autre. En feuilletant le livre, on trouvera un certain nombre d'autres points. Hein. Il y a un intérêt qui à la fois reste unifié autour de la relation ou de la comparaison entre France et Allemagne, mais qui se diversifie un peu. Donc, on verra par exemple l'histoire d'un Allemand venu au secours de Paris contre les Normands, enfin d'un Allemand entre guillemets, le comte Henri en 885 et qui laisse la vie. On verra une reine allemande de France, mais enfin elle n'est pas si allemande que ça, puisque ça n'a pas un sens extraordinaire à cette époque, mais Gerberge, la sœur de l'empereur Othon Ier et femme de Louis IV, dont une autre sœur tout de même est la mère du Capet, mariée au duc des Francs, rival du roi Louis IV. On verra comment l'Allemagne rhénane, la région de Cologne, après un passage par la Lorraine, adapte aussi à sa manière la formule de la trêve de Dieu, qui est à la fois une loi et une institution d'origine catalane, c'est-à-dire venant du royaume capétien et puis passée par la vallée du Rhône et par la Lorraine. On verra aussi une belle mise au point de Jean-François Nieus sur les tournois et sur les armoiries, sur l'invention des tournois. Et puis nous n'avons pas oublié non plus quand même le problème la reconnaissance de l'importance des communautés juives et de leur rôle culturel, de leur floraison culturelle dans ces siècles centraux du Moyen-Âge, à la fois dans l'Allemagne rhénane et dans plusieurs régions du royaume capétien, de la Normandie au Languedoc, et on verra une étude différentielle de l'histoire de la persécution ou de la protection des juifs par les barons et princes français d'un côté et par les rois et empereurs en Allemagne de l'autre. Voilà, donc il y a une certaine variété de thèmes et que le lecteur pourra découvrir, mais je pense que vous avez dit l'essentiel avec cette question de la différence et de l'attention à l'autre.
Vous avez eu raison d'aborder tous ces points, car c'est un livre foisonnant, et comme je suis d'origine flamande, je me permets aussi de rajouter, une fois n'est pas coutume, le portrait du forestier Lidéric, ancêtre des comtes de Flandre. Je dis du forestier Lidéric, mais en réalité il y en a deux, et c'est un chapitre formidable, car il condense à la fois l'intelligence politique qui pouvait se déployer à cette époque, et aussi un certain merveilleux littéraire, les deux se rejoignant pour notre plus grand plaisir aujourd'hui. Merci à tous les deux de nous avoir accordé de votre temps dans des conditions difficiles qui sont celles des interviews à distance. Je rappelle pour tous nos auditeurs les références de ce beau livre, Allemagne et France au cœur du Moyen-Âge, dirigé par Dominique Barthélemy et Rolf Gross, préface de Michel Zinck, aux jeunes éditions passées composées. Merci encore, messieurs.
Merci. Thank you.